C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944. Pilote dans l'aviation commerciale, journaliste, écrivain, français, hétérosexuel. Œuvre, Le Petit Prince, conte. Première édition en traduction anglaise, The Little Prince à New York en 1943. Première édition française en 1946. Personnage, Le Petit Prince. Adaptation multiple ô combien. La première adaptation au cinéma a été lituanienne en 1967, une pièce en 1963 en France, un opéra aux États-Unis en 2003, ainsi qu'une comédie musicale, un ballet, une bande dessinée et des tasses, des cartables, des parapluies, des t-shirts. Il n'y manque guère que des préservatifs. On a mis le petit prince sur le trottoir. Dans l'évolution du marketing, on arrive parfois à son stade ultime, la prostitution. Contrairement à ce que l'on pense souvent, le marketing n'a pas été importé dans l'édition avant même que le mot n'existe par Bernard Grasset, mais bien avant. À ma connaissance, la première fois où l'on a fait autre chose pour les livres que de les mettre en place dans des librairies ou de les colporter, c'est pour le premier roman des frères Goncourt. Leur éditeur, Du Minerai, avait embauché des hommes sandwich arpentant le boulevard Saint-Germain pour faire la promotion de leur premier roman en 1800. C'était en 1851. Les gens du marketing sont si incultes qu'ils pensent qu'ils viennent d'inventer des méthodes qui existaient depuis les grottes. On peut le dire sans risque, la cupidité a été inventée avant la littérature. Dans ce personnage en personne, je vais essayer d'enlever son maquillage aguicheur à ce personnage tellement opacifié par le marketing mondial. Le Petit Prince est un conte qui se moque des importants, c'est-à-dire des gens qui se croient importants. Cela, c'est son sujet apparent. Son sujet réel est probablement l'apprivoisement. À la fin du conte, le renard dit au petit prince que rien n'est plus souhaitable que d'être apprivoisé. Apprivoiser et être apprivoisé, c'est faire des abandons mutuels en faveur de l'autre. Il est vrai que l'un en fait plus que l'autre et Saint-Exupéry a beau jeu de faire vanter l'apprivoisement par l'animal le faible. Le petit prince serait un personnage universel. Outre que je ne sais pas bien ce qu'universel sous-entend, il me semble à moi qu'il est bien français. Un des mots les plus fréquents qu'il emploie est « ridicule ». Disons que à ce moment-là, c'est le créateur qui doit transparaître derrière le personnage. Monsieur de Saint-Exupéry juge des gens ridicules. Et pourtant, c'est un humaniste. C'est dire si les mots peuvent être machinaux et comme il faut s'en méfier. Il est à noter que les gens très à droite haïssent le petit prince de manière automatique et convenue. D'une part, c'est un personnage de Saint-Exupéry, écrivain humaniste, et l'humanisme les fait ricaner. D'autre part, ils considèrent que c'est un héros non viril, un géniard, une proto-tapette. Sans oublier la jouissance acide de se rassembler et de se ressembler dans le dénigrement. Cette haine s'accompagne souvent de la haine d'Albert Cohen, trop juif, trop niaisement amoureux. Cela n'a aucune importance, parce que ces gens-là ne lisent rien, pas plus Cohen que Saint-Exupéry, et qu'ils jugent en fonction de projections morales. Qui est le petit prince? Pour ôter la croûte de préjugés qui l'entoure comme du sel une dorade au four, je reçois Alexis Brocard, romancier, rédacteur en chef adjoint du Nouveau Magazine littéraire. Alexis Broca, dites-moi à quoi ressemble physiquement le petit prince.
Alors cela dépend des aquarelles de Saint-Exupéry. Il y en a une très belle, page 17 de l'édition de poche, où le petit prince est représenté en habit d'apparat, avec des épaulettes portant une étoile. Une étoile évidemment métonymique de son étoile à lui. Il porte aussi un fleuret qui a plutôt l'air d'un fleuret de jouet et un manteau nobiliaire. Mais ça, c'est une seule aquarelle. Il est plus généralement représenté comme un peu, c'est un petit garçon blond. Pour ma part, je lui donne 6 ans, qui est l'âge que se donne Saint-Exupéry lorsqu'il raconte le début du conte et lorsqu'il raconte son dessin du chapeau. Et il porte par ailleurs tout le temps un cache-nez. C'est le cache-nez d'ailleurs que portait lui-même Saint-Exupéry. Voilà. Et il ressemble aussi au dessin antérieur que pouvait livrer Saint-Exupéry sur ses lettres, sur les nappes des restaurants quand il s'ennuyait.
La plupart du temps, il porte un pantalon, une chemise, oui, col ouvert, voilà. De couleur vert d'eau.
De couleur vert d'eau, exactement. Ça a longtemps été de couleur bleue, paraît-il, simplement parce que l'édition française, en fait, avait reproduit les dessins de l'édition américaine première que vous avez cité par le biais de calques. Et visiblement, quelques éléments avaient été perdu, dont la couleur et dont certains traits. On s'est rendu compte, si mes souvenirs sont bons, dans les années 90, où on a en fait récupéré le manuscrit du Petit Prince, enfin où on s'est mis à reproduire le manuscrit du Petit Prince qui est à la bibliothèque Morgan Pierpont. Et là, on en est revenu effectivement à un Petit Prince vert d'eau au contour plus net que les... Mais enfin, je vous avoue que j'ai vu assez peu de différence avec cette édition et l'édition de mon enfance.
Et une fois, il porte un nœud papillon rouge.
Oui, c'est vrai. Alors, je ne me souviens plus où, d'ailleurs.
Une seule fois. Est-ce qu'il y a une chose assez frappante, c'est que Saint-Exupéry vient d'un milieu aristocratique et c'est on vrai. A l'impression qu'il a fait de son personnage, sans probablement y attacher beaucoup plus d'importance que ça, un prince.
Oui, c'est vrai. Il est d'ailleurs le prince d'une étoile. Et en même temps, c'est un prince qui ne revendique aucun pouvoir. C'est un prince jardinier qui ramonne ses volcans, arrache les pousses de baobab. Il est bien différent du roi qu'il croisera sur la première planète.
Alors, c'est un enfant, vous l'avez dit, Alexis Broca, c'est un enfant dont le langage est troublé. Sa première phrase, la première phrase que nous entendons, oui. Est « S'il vous plaît, dessine-moi
un mouton ». Voilà. Et en effet, en mettant ce « vous » de politesse, puis en passant au tutoiement, d'emblée, Saint-Exupéry crée une illusion d'enfance. Et en même temps, ce double emploi, si j'ose dire, montre que c'est un enfant poli, un enfant éduqué, un petit prince, en effet, il utilise le « vous ». Et la demande impérative, elle... me fait penser à Saint-Exupéry tel qu'il est décrit dans ses biographies enfant, c'est-à-dire un enfant qui aimait inventer des jeux et qui aimait rien tant que d'entraîner les autres enfants dans ses jeux, quitte à les sortir de leur propre jeu. Et de là peut-être cet impératif, dessine-moi.
Et est-ce que la confusion syntaxique ne voudrait pas signaler aussi une forme d'inadaptation de cet enfant?
Si, c'est possible, en effet. Ouais.
Alors, l'intéressant est qu'il ne réclame pas un mouton, mais l'image d'un mouton.
Il réclame l'image
d'un
mouton.
C'est-à-dire, on est tout de suite dans la préférence du monde de l'imagination.
C'est vrai, mais pour lui, il ne semble pas établir de différence entre le monde de l'imagination et le monde réel, comme le font les enfants lorsqu'ils jouent et qu'ils donnent à une caisse en bois les propriétés d'une voiture de course, par exemple.
Alors, vous le disiez, le petit prince accepte et veut le principe de l'imagination. Et par exemple, quand le narrateur lui dessine des moutons ratés et qu'en n'arrivant pas à dessiner un mouton, il le met dans une caisse. Et là, le petit prince est ravi. Comme tous les enfants, c'est le principe du faire comme si. Il veut continuer à croire l'imagination.
Exactement. Il veut continuer à croire. Et en même temps, il y croit tant qu'après tout, pourquoi est-ce que ça ne serait pas réel? Le mouton devient un véritable enjeu. Certains critiques modernes vous diraient que c'est un enjeu écologique, puisque le mouton est là pour dévorer les pousses de baobab qui menacent de faire éclater un jour la planète du Petit Prince si jamais elles étaient négligées, ces pousses.
Alors le livre est plein d'une expression datée que j'aime beaucoup qui est les grandes personnes. Je crois que ça se dit plus beaucoup, les grandes personnes.
Non.
Et le livre sert à nous dire que l'âge de ces grandes personnes, l'âge adulte et l'âge de la posture, ils passent le temps à s'en moquer. Les grandes personnes, nous est-il dit, ont toujours besoin d'explications, ce qui est un peu incertain d'ailleurs, car nous savons que les plus grands réclameurs d'explications sont plutôt
les enfants. En effet, d'ailleurs, il est dit aussi que le petit prince ne renonce jamais à une question après l'avoir posée. Oui, le petit prince agit comme un révélateur sur les grandes personnes. Le regard qu'il porte sur les grandes personnes les amène à découvrir la vacuité de leurs obsessions. C'est dans cela d'ailleurs qu'on peut dire qu'il est philosophe, ce petit prince. Ce n'est pas un philosophe au sens français, il ne construit pas de système, mais il a l'étonnement du philosophe, et il a aussi ce regard du philosophe qui ne tient rien pour acquis, et qui, donc, parvient à voir, au-delà des conventions, effectivement, l'imposture, ou les postures.
Alors faisons comme si des centaines de millions de personnes n'avaient pas lu ce livre, et oui. disons quand même un petit peu ce qu'il arrive à ce petit prince.
Si je prends l'ordre du récit, ce petit prince apparaît au narrateur alors qu'il se trouve dans le désert en train vainement d'essayer de réparer son avion qui est tombé en panne. Ce petit prince réclame donc ce mouton et il doit bien expliquer au narrateur pourquoi ce mouton. Et le petit prince explique qu'il vient d'une autre planète, une toute petite planète. Il ne cesse de répéter d'ailleurs à quel point chez lui c'est tout petit. Cette planète possède deux volcans en état de marche, ce qui est pratique pour faire chauffer son petit déjeuner, comme il le dit. Et surtout, cette planète possède une rose qui est arrivée d'une graine venue d'on ne sait où. Et cette rose qui est à la fois coquette, vantarde et vulnérable, de manière poignante d'ailleurs.
Ah, elle a une chose charmante, elle tousse.
C'est une rose qui tousse, en effet. Elle tousse comme ces héroïnes du 19e siècle pour faire valoir la fragilité de leur nature. Elle tousse, elle cherche à manipuler en quelque sorte le petit prince. Et le petit prince aime la rose, mais ne se sent pas aimé d'elle. Et c'est pour ça qu'il décide de partir. Et au moment du départ, d'ailleurs, cette rose reconnaît qu'elle a été idiote, qu'elle a sans doute fait trop de comédie devant ce petit prince. Et donc, ce petit prince s'en va. Et là, il va visiter 6 planètes, chacune peuplée d'une seule personne. Et chacune de ces planètes, en fait, va lui révéler un travers propre aux grandes personnes. Il tombe d'abord sur un roi, et le regard du petit prince va révéler à travers ce roi, qui est un bon roi par ailleurs, la vanité du pouvoir. Il va tomber sur une planète...
Pardon de vous interrompre, mais le roi lui-même est assez désabusé sur son pouvoir, puisqu'il est assez malin pour ordonner le coucher du soleil au moment où il
sait
que le soleil se couche.
C'est pour ça que c'est un bon roi, il vous ordonne de bâiller quand vous avez envie de bâiller. Voilà. Il ne cherche pas à heurter le cours des choses. Mais tout de même, on voit bien à travers son discours la vanité qu'il y a à prétendre régner sur des choses qui nous dépassent dans l'échelle du temps, comme une planète par exemple. Puis il va croiser un vaniteux, il va tout de suite d'ailleurs démonter la mécanique de la vanité, ce besoin d'applaudissements pour les applaudissements. Il va rencontrer un ivrogne, et là il y a un passage de maïeutique extraordinaire, puisqu'il va éclaircir la logique absurde de l'ivrogne qui boit parce qu'il a honte de boire. Il va aussi tomber sur la planète d'un homme d'affaires.
Arrêtons-nous un peu sur l'homme d'affaires, car il est très intéressant. Oui. Je me demande, Alexis Broca, si cet homme qui ne connaît pas le mot étoile, qui ne sait que compter, si ce n'est pas dans ces pages qu'on trouve une des premières occurrences du verbe gérer dans la fiction française. Le petit prince lui demande ce qu'il fait des étoiles et il répond je les gère.
Je les gère, en effet, ce verbe qui ne veut rien dire.
C'est un verbe terrifiant.
C'est un verbe terrifiant, en effet, qui est d'ailleurs utilisé dans tous les sens aujourd'hui, ce qui montre bien d'ailleurs le triomphe d'un certain matérialisme que détestait Saint-Exupéry. Dans cet homme d'affaires, dans ce businessman, on retrouve évidemment plein des personnages que Saint-Exupéry ont croisés. L'aéropostale a fait faillite. Dépecé par les manœuvres d'hommes d'affaires, et Saint-Exupéry était très attaché à l'aéropostale qui lui a offert ses premières grandes aventures, aériennes. Et par ailleurs, Saint-Exupéry vitupérait le matérialisme de son temps. C'était quelque chose qui lui faisait horreur. Et d'ailleurs, lorsqu'il arrive en Amérique, il y voit une caricature du matérialisme européen. C'est tout cela, en effet, qui se retrouve dans Le Petit Prince. Et Le Petit Prince, là aussi, fait ressortir tout de suite l'absurdité et l'inhumanité de cette conduite. Il y a quelque chose, d'ailleurs, de christique dans ce passage-là. Il y a quelque chose du « rendez à César ce qui est à César ».
Alors, les grandes personnes sont pourries de préjugés. Par exemple, la planète du Petit Prince que vous avez mentionnée, l'astéroïde B612, qui a été aperçu au télescope par un astronome turc. Et quand ce Turc a fait la démonstration de l'existence de la planète au Congrès, on ne l'a pas cru parce qu'il portait un costume traditionnel turc, et il a fallu qu'il porte un costume à l'européenne pour qu'on le croie.
Oui, c'est un passage très étonnant parce qu'il est absolument crédible, ce passage, en effet. Et la façon dont il est raconté montre bien, là encore, à quel point nous, adultes, sommes déraisonnables d'accorder du crédit ou aucun crédit à une personne, non pas sur la foi de son discours, mais sur la foi de son costume.
Alors, dans sa pérégrination, le petit prince, vous l'avez dit, va dans 6 étoiles différentes, et en réalité, il va dans 7, puisqu'il arrive sur la Terre.
Voilà, exactement.
Comme il rencontre donc 7 êtres, puisque le dernier est le narrateur. Et tout ça est évidemment comme les 7 jours de la semaine. Il y a une intention symbolique évidente.
En le relisant, j'ai pensé de façon un peu étonnante à Au cœur des ténèbres de Conrad, à ses parcours semés d'étapes, où chaque étape porte un enseignement. Sauf que le parcours du personnage de Conrad le mène vers l'horreur. Là, le parcours du petit prince mène à une forme de vérité.
La chose assez piquante, c'est que en réalité, je disais que le septième être qu'il rencontre est le narrateur. C'est pas vrai, le septième être qu'il rencontre, c'est un serpent.
C'est un
serpent. Le serpent, il le voit sur la planète Terre.
Exactement.
Et donc, la venimosité se trouve sur la Terre.
Oui, c'est vrai, ça commence par la découverte de la venimosité. Et cela dit, ce serpent... c'est un symbole éminemment biblique, là encore, mais il n'est pas traité sur ce mode-là. C'est l'agent de la mort, simplement. Mais la mort n'est pas mauvaise, du moins pas dans ce livre-là. Elle n'est pas perçue comme un mal, elle est perçue comme une cause. Le petit prince va s'étonner devant le serpent et va lui demander « Pourquoi parles-tu tout le temps par énigme ?» Et le serpent va lui répondre « Je les résous toutes ». En effet, la mort est la réponse à tout, en quelque sorte.
En effet, mais ça veut peut-être dire aussi que pour Saint-Exupéry dans ce conte, la mort et le mystère.
Oui, c'est vrai. La mort et le mystère. Ouais, ouais. La mort et le mystère que Saint-Exupéry a été confronté très tôt. Son père est mort quand il avait 4 ans. Il a été très marqué par la mort de son frère François quand il avait 15 ans. En même temps, Saint-Exupéry n'est pas du tout un pessimiste. Je ne sais pas, c'est un vrai mystère d'ailleurs s'il avait la question de la foi de Saint-Exupéry. Toutefois, il ne considère pas la mort avec l'épouvante qui nous vient naturellement à l'esprit lorsqu'on évoque la mort.
Nous allons maintenant entendre la chanson d'une autre sorte de Petit Prince, écrite et chantée d'ailleurs par un petit prince martyrisé. Quand il était adolescent, ses parents ont fait subir à Laurie des électrochocs pour le guérir de son homosexualité. Bien des années plus tard, il a écrit l'histoire d'un petit prince au genre double qui voudrait qu'on lui dessine un mouton. En l'espèce, le succès et le bonheur à New York où il se rend, c'est bien sûr Walk on the White Side, et la chanson date de 1972.
From Miami FLA, hitchhiked away across the USA. Plucked your eyebrows along the way, then he shaved his legs. I'm on a his shield. I said, babe, take a walk on the wild side. Honey, you take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never once lost her head, even when she was here with her things. Babe, you take a walk on the wild side. Honey, you take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do.
Alexis Broca, il y a un apparent conflit dans le personnage du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est insensible, c'est un modeste, il n'aime pas les vaniteux, il n'aime pas les importants. Et pourtant, au chapitre 20, quand il se rend compte qu'il ne possède que 3 volcans et qu'une rose, alors qu'il en voit bien davantage autour de lui, il pleure. Est-ce que ça n'est pas une forme de vanité ?
Non, ce n'est pas une forme de vanité, parce que lorsqu'il voit ses nombreuses roses, il se rend compte en fait que la sienne n'est pas unique. C'est ça qui le fait pleurer. Il croyait fort en la qualité unique de sa rose. Sa rose lui avait fait croire cela d'ailleurs. Et de découvrir qu'elle est semblable, en apparence du moins, à toutes les roses de la terre, ça le consterne, parce que c'est une part de sa vision du monde qui s'effondre en quelque sorte, mais elle va être restaurée, plus tard.
Est-ce qu'en fait ça n'est pas plutôt une crise d'enfance, et peut-être le seul moment, on va y venir, où le petit prince soit vraiment un enfant, c'est-à-dire ayant la fascination du superlatif, comme tous les enfants qui veulent que leur père ait la plus grosse voiture, que leur mère soit la plus belle, qu'ils aient un meilleur ami?
Ah, j'ai du mal à le voir ainsi, en fait. Peut-être.
C'est dans cette crise-là, je veux dire.
Oui,
non,
oui.
Non, vous pensez que c'est juste la blessure de penser que la rose
exactement,
n'était pas...
Voilà.
Bah, justement, mais n'était pas unique. Donc, un enfant pensait à l'unicité du monde qui l'entoure, non?
Oui, bien sûr.
Et donc, là, il est très enfant.
Là, il est très enfant, bien sûr. En effet, il est très enfant, ou il est peut-être préadolescent. Le préadolescent qui vit une première histoire d'amour se rend compte que cette histoire d'amour qu'il estime unique et inimitable lorsqu'il la vit est une expérience partagée par tous les préadolescents du monde, peut-être.
Car la chose frappante tout au long du conte, c'est que le petit prince est relativiste. Et c'est-à-dire qu'il est plutôt vieux dans ce sens-là. Les enfants ne sont pas relativistes.
Que voulez-vous dire par relativiste?
Eh ben, que justement, il trouve que d'abord que les gens sont ridicules.
Oui.
Il trouve que les adultes sont importants et que doivent pas être importants. C'est pas tout à fait une réflexion d'enfance, ce que je veux dire.
Non, c'est vrai.
Il raisonne pas exactement comme un enfant.
Non.
C'est pas une critique que je lui fais.
Non,
il
c'est vrai.
Est comme il est, mais.
Non, c'est vrai. Il ne raisonne pas exactement comme un enfant. D'ailleurs, lorsqu'on le lit enfant, moi, je me souviens très bien avoir été parfois déconcerté par Le Petit Prince. Autant un enfant adhère tout à fait à la façon dont le regard du du Petit Prince est décrit. Et c'est vrai que lorsqu'on est enfant et lorsqu'on contemple les adultes s'agitant dans les rapides, pour reprendre les mots de Saint-Exupéry, on est souvent très déconcerté. En revanche, évidemment, certaines réflexions qu'il fait, certaines comparaisons qu'il fait, là, sont très au-delà de l'enfance. La force de Saint-Exupéry, c'est de réussir à nous faire croire qu'il reste enfant de toute façon, alors même qu'il met dans ce Petit Prince beaucoup de sa propre pensée d'adulte.
Ça n'est pas du tout un conte pour enfants.
Je ne sais pas. Je pense que c'est un conte pour enfants. Alors, c'est une question capitale et il est très difficile d'y répondre, à mon avis, de façon catégorique. Pour ma part, moi, je persiste à croire que c'est un conte pour tout le monde. Mais le Petit Prince, lorsqu'on le lit enfant, il sème certaines lumières en nous. Et ces lumières, plus tard, nous révéleront des choses. Je pense qu'il nous apprend, qu'il apprend aux enfants une manière de voir.
Mais vous y mettez une intention morale.
Je pense que tous les textes de Saint-Exupéry ont une forme de portée morale, bien sûr. Oui.
Alors, à la fin du conte, le Petit Prince tombe doucement, comme un arbre, nous est-il dit, oui. Et il disparaît. Ça n'est pas un conte optimiste.
Non, ce n'est pas un conte optimiste, il meurt à la fin. Saint-Exupéry tenait à cette fin. Les éditeurs américains qui ont reçu les premiers le texte étaient très décontenancés par la fin. Ils lui ont demandé de changer et Saint-Exupéry a préféré la garder. Il aurait répondu que pour un enfant, la mort pouvait être une chose naturelle. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, bien sûr. Je ne suis pas sûr que pour un enfant qui a été élevé dans une idée de sécurité, la mort soit quelque chose d'absolument naturel. Voilà. Mais en tout cas, c'est un risque de faire mourir le personnage principal d'un livre qui est estampillé livre pour enfants. Je trouve ça beau qu'ils le prennent. Et je trouve par ailleurs que ça convient. Je n'imagine pas d'autre fin pour Le Petit Prince aujourd'hui. Je trouve splendide cette fin.
Le Petit Prince est un conte qui pourrait être chinois, russe, africain.
Oui, oui.
Quand on me parle d'écrivain national, j'appelle la douane et j'éclate de rire avant le douanier, en voyant le douanier Régis Debray.
Oui, c'était drôle.
Mais il y a quand même cette idée que je trouve très française, je l'ai dit, qui est cette notion un peu bizarre du ridicule que Saint-Exupéry met dans la bouche de cet enfant.
C'est vrai.
Et ça qui est très français.
C'est très français, en effet. Et en même temps, Le Petit Prince constate le ridicule de ses personnages, mais il le constate sans méchanceté. Pour lui, c'est un état de fait, mais il ne cherche pas à pousser ses personnages dans leur ridicule.
Ce que je veux dire, c'est que c'est français dans le sens où c'est un jugement social,
oui.
Le ridicule.
Oui, c'est un jugement social.
Et que
social.
C'est pour ça qu'un enfant, en général, n'a pas de jugement social.
C'est vrai.
Ça arrive à l'adolescence.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, Saint-Ex a été... sans doute lui-même souvent perçu comme ridicule. C'était un jeune homme noble, désargenté, qui avait du mal à s'habiller, qui avait du mal avec ce milieu intellectuel où il le dit, où on échange les idées comme des balles de tennis. Il avait du mal à être cynique. Il a, on le sait, été rejeté par deux femmes de son milieu aristocratique, l'une qui était d'ailleurs sa fiancée, Louise de Villemorin, et ça a dû évidemment beaucoup le hanter, cette peur du ridicule.
Alexis Brocage, je parlais dans mon introduction du personnage du renard qui apparaît à la fin du conte, et là aussi, ça n'est pas un renard-renard, si je puis dire. Ça n'est pas un stéréotype de renard de conte, un goupil.
Non, non.
Lui est gentil, recherche l'affection, il est légèrement mélancolique, comme au fond, probablement, le Petit Prince et tous les personnages positifs du conte.
Oui, c'est vrai, il est légèrement mélancolique, il est à la recherche d'amitié. Il dispose d'une certaine sagesse. Lors du deuxième rendez-vous, il explique au Petit Prince pourquoi il est important de revenir à des heures données. Et il lui dit, parce que si tu arrives à 4 heures, si tu me dis que tu arrives à 4 heures, à 3 heures, mon cœur commencera à être en fête. Puis quand 4 heures arrivera, dès que tu n'es pas là, je commencerai peut-être à m'inquiéter. Saint-Exupéry écrit dans Citadelle, si je me souviens bien, que les rites sont au temps ce que les demeures sont à l'espace.
Le renard le dit, il faut des rites.
Il faut des rites, exactement. Mais les rites nous permettent d'habiter le temps.
Et oui, et puis il a des idées de poète, ce renard. Il lui dit, si tu m'apprivoises, le blé qui est doré me fera me souvenir de toi.
C'est un passage merveilleux.
Très
c'est
bon.
Un des plus beaux passages. Pour moi, c'est sans doute le passage le plus bouleversant du livre. Il est très difficile de le lire à un enfant sans se sentir venir des larmes. Je me souviens, c'était une scène dans un film pas très bon, le film des Inconnus, Les Trois Frères. Ça raconte l'histoire de trois frères qui se découvrent le jour où leur mère disparaît. Et ces trois frères se retrouvent en charge, dans des circonstances un peu rocambolesques, du fils de l'un d'entre eux. Et ils lui lisent Le Petit Prince. Ils lui lisent la scène du renard. Et vous voyez ces grands dadais essayer de progresser dans le texte et larmoyer peu à peu. Et à la fin, lâcher le livre en disant « c'est des bêtises ». Enfin, ils ne disent pas « c'est des bêtises », ils le disent en termes beaucoup plus vifs. Mais ils pleurent et ils disent « c'est des bêtises ». Et cette scène, ce film n'est pas grandiose, mais cette scène, à mon avis, est un beau moment de critique littéraire sur ce passage, en effet. Ce passage me brise le cœur, et pourtant, ce qu'il dit est extrêmement positif.
Est positif, sauf que c'est du spéculatif. Il lui dit « si tu m'apprivoises ».
Si tu m'apprivoises.
Et on sait bien qu'en fait, il ne l'apprivoise pas.
Oh, un petit peu, tout de même.
Un peu.
Il l'apprivoise un petit peu, puisqu'il lui dit après, lorsque le petit prince se prépare à partir, il lui dit qu'il va être triste, mais qu'il y gagnera toujours à cause de la couleur des blés.
Le petit prince pose beaucoup de questions, mais ne répond pas à celles qu'on lui pose. Le narrateur a beaucoup de peine à comprendre d'où il vient, et ça, pour le coup, c'est très enfantin. Les enfants gardent leurs secrets tout en voulant connaître le secret des autres. Ils croient au secret. Et d'ailleurs, à la fin, il y a la révélation d'un secret. C'est le renard qui le lui confie.
Oui, le fait qu'on ne voit bien qu'avec le, qu'on voit que l'essentiel est invisible pour les yeux. Oui, c'est vrai. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est vrai. Alors, ces deux aphorismes sortis de leur contexte peuvent mener à toutes les dérives du développement personnel et de la sentimentalité. Ce n'est pas cela. C'est évidemment infiniment plus profond. Saint-Exupéry met au premier plan les relations humaines. Il pense que ce qui rend le monde habitable, c'est l'amitié. Toute sa vie, il a des exemples d'amitié magnifiques, notamment avec Mermoz, avec Guillaumet. Et on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est simplement qu'on ne voit bien les choses qu'au travers des sentiments qu'on porte pour elle, ou qu'au travers des sentiments que l'on porte pour d'autres choses qui nous permettent de structurer le monde et donc qui nous permettent de l'organiser autour de quelque chose de beau, qui est de l'amour, en effet.
Le petit prince est sérieux. Il lui arrive d'éclater de rire, mais il ne s'amuse pas. Et je me demande, vous allez me donner votre avis, si le petit prince n'est pas ou ne pourrait pas être un artiste. Il a précisément le sérieux. Moi, je pense que les artistes sont très sérieux. Oui. Le goût d'imagination, la solitude, l'idée que le monde est mal fait et il ne s'y habitue pas, un désir de logique. Et puis à la fin, il disparaît de la terre des hommes.
C'est vrai. Il est un artiste et en même temps, que produit-il comme œuvre ?
Il a un tempérament d'artiste.
Il a un tempérament d'artiste, c'est vrai. Et il est vrai que il change aussi la façon dont nous voyons le monde. Il est sûr que le narrateur ne verra plus le monde de la même façon. Il y a un beau passage d'ailleurs au début du livre où le narrateur en a assez des questions du petit prince. Il est en train d'essayer de décoincer un boulon et il lui répond un peu hâtivement. Et le petit prince va lui faire honte en lui expliquant que son boulon ne pèse pas grand-chose face au drame de la guerre des moutons et des roses. Et je trouve ça magnifique, ça aussi, ce passage. Parce qu'effectivement, c'est un discours enfantin et en même temps, il est impossible de le contredire.
Alexis Broca, que vous a appris le personnage du petit prince ?
Ah, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à lire, parce que c'est sans doute le premier vrai livre que j'ai lu. Il m'a appris le sérieux et l'importance du regard de l'enfant. Je me souviens en effet que lorsque j'avais lu ce livre, quand j'étais tout petit, j'adhérais tout à fait à la vision du petit prince du monde adulte. Il m'a appris aussi que Saint-Exupéry n'était pas un aviateur qui écrivait, c'était un grand écrivain qui se trouvait être aviateur. Voilà, pour moi, Le Petit Prince est un vrai chef-d'œuvre de littérature. En effet, je ne sais pas si c'est un livre universel, mais en tout cas, si l'on juge que ce qui appartient à la littérature, ce sont des énoncés qui fonctionnent en tout lieu, en tout temps, auprès de tout interlocuteur, comme on le disait autrefois, on me l'a appris pendant mes études, du moins, Le Petit Prince est un immense chef-d'œuvre.
C'était Personnage en personne, le 98e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage de la Castafiore créé par Hergé.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Meryl Moneghetti, prise de son Olivier Dupré.
De ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
Grand jeudi, tous les jours paradis, de l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quelle est ce rayon éblouissant, élu parmi ses